Sodome et Gomorre, deuxième partie, chapitre 1, fin. Il me remit un petit mot d'Albertine. Elle n'avait pas dû venir à Balbec cette année, mais, ayant changé de projet, elle était depuis 3 jours, non à Balbec même, mais à 10 minutes par le tram, à une station voisine. Craignant que je ne fusse fatiguée par le voyage, elle s'était abstenue pour le premier soir, mais me faisait demander quand je pourrais la recevoir. Je m'informai si elle était venue elle-même, non pour la voir, mais pour m'arranger à ne pas la voir. « Mais oui, » me répondit le directeur, « mais elle voudrait que ce soit le plus tôt possible, à moins que vous n'ayez pas de raison tout à fait nécessiteuse. Vous voyez, » conclut-il, « que tout le monde ici vous désire, en définitif. » Mais moi, je ne voulais voir personne. Et pourtant, la veille, à l'arrivée, je m'étais senti repris par le charme indolent de la vie de bain de mer. Le même lift, silencieux cette fois, par respect, non par dédain, et, rouge de plaisir, avait mis en marche l'ascenseur. M'élevant le long de la colonne montante, j'avais retraversé ce qui avait été autrefois pour moi le mystère d'un hôtel inconnu, où, quand on arrive, touriste sans protection et sans prestige, chaque habitué qui rentre dans sa chambre, chaque jeune fille qui descend dîner, chaque bonne qui passe dans les couloirs étrangement délinéamentés, et la jeune fille venue d'Amérique avec sa dame de compagnie et qui descend dîner, jette sur vous un regard où l'on ne lit rien de ce qu'on aurait voulu. Cette fois-ci, au contraire, j'avais éprouvé le plaisir, trop reposant, de faire la montée d'un hôtel connu où je me sentais chez moi, où j'avais accompli, une fois de plus, cette opération toujours à recommencer, plus longue, plus difficile que le retournement de la paupière, et qui consiste à poser sur les choses l'âme qui nous est familière, au lieu de la leur qui nous effrayait. Faudrait-il maintenant, m'étais-je dit, ne me doutant pas du brusque changement d'âme qui m'attendait, aller toujours dans d'autres hôtels où je dînerais pour la première fois, où l'habitude n'aurait pas encore tué à chaque étage, devant chaque porte, le dragon terrifiant qui semble éveillé sur une existence enchantée, où j'aurais à approcher de ces femmes inconnues que les palaces, les casinos, les plages ne font à la façon des vastes polypiers que réunir et faire vivre en commun. J'avais ressenti du plaisir même à ce que l'ennuyeux premier président fût si pressé de me voir. Je voyais, pour le premier jour, des vagues, les chaînes de montagnes d'azur de la mer, ses glaciers et ses cascades, son élévation et sa majesté négligente. Rien qu'à sentir, pour la première fois depuis si longtemps, en me lavant les mains, cette odeur spéciale des savons trop parfumés du grand hôtel, laquelle, semblant appartenir à la fois au moment présent et au séjour passé, flottait entre eux comme le charme réel d'une vie particulière où l'on ne rentre que pour changer de cravate. Les draps du lit, trop fins, trop légers, trop vastes, impossibles à border, à faire tenir, et qui restaient soufflés autour des couvertures en volutes mouvantes, m'eussent attristé autrefois. Ils bercèrent seulement, sur la rondeur incommode et bombée de leur voile, le soleil glorieux et plein d'espérance du premier matin. Mais celui-ci n'eut pas le temps de paraître. Dans la nuit même, l'atroce et divine présence avait ressuscité. Je priai le directeur de s'en aller, de demander que personne n'entrât. Je lui dis que je resterais couché et repoussai son offre de faire chercher chez le pharmacien l'excellente drogue. Il fut ravi de mon refus, car il craignait que des clients ne fussent incommodés par l'odeur du calypsus. Ce qui me valut ce compliment, « Vous êtes dans le mouvement !» Il voulait dire « dans le vrai ». Et cette recommandation Faites attention de ne pas vous salir à la porte, car, rapport aux serrures, je l'ai faite induire d'huile. Si un employé se permettait de frapper à votre chambre, il serait roulé de coups. Et qu'on se le tienne pour dit, car je n'aime pas les répétitions. » Évidemment, cela signifiait « je n'aime pas répéter deux fois les choses ». Seulement, est-ce que vous ne voulez pas, pour vous remonter un peu du vin vieux dont j'ai en bas une bourrique ? Sans doute pour barrique. Je ne vous l'apporterai pas sur un plat d'argent, comme la tête de Jonathan, et je vous préviens que ce n'est pas du château Lafitte. Mais c'est à peu près équivoque, pour équivalent. Et comme c'est léger, on pourrait vous faire frire une petite sole. Je refusais le tout, mais fus surpris d'entendre le nom du poisson, la sole, être prononcé comme l'arbre, le saule, par un homme qui avait dû en commander tant dans sa vie. Malgré les promesses du directeur, on m'apporta un peu plus tard la carte cornée de la marquise de Cambremer. Venue pour me voir, la vieille dame avait fait demander si j'étais là. Et quand elle avait appris que mon arrivée datait seulement de la veille, et que j'étais souffrant, elle n'avait pas insisté. Et, non sans s'arrêter sans doute devant le pharmacien ou la mercière, chez lesquels le valet de pied, sautant du siège, entrait payer quelques notes ou faire des provisions, la marquise était repartie pour Féterne, dans sa vieille calèche à 8 ressorts, attelée de 2 chevaux. Assez souvent, d'ailleurs, on entendait le roulement et on admirait la parade de celle-ci dans les rues de Balbec et de quelques autres petites localités de la côte, situées entre Balbec et Féterne. Non pas que ces arrêts chez des fournisseurs fussent le but de ces randonnées. Il était au contraire quelques goûters ou garden parties, chez un hobereau ou un bourgeois, fort indigne de la marquise. Mais celle-ci, quoique dominant de très haut par sa naissance et sa fortune, la petite noblesse des environs, avait, dans sa bonté et sa simplicité parfaite, tellement peur de décevoir quelqu'un qui l'avait invité, qu'elle se rendait aux plus insignifiantes réunions mondaines du voisinage. Certes, plutôt que de faire tant de chemin pour venir entendre, dans la chaleur d'un petit salon étouffant, une chanteuse généralement sans talent, et qu'en sa qualité de grande dame de la région et de musicienne renommée, il lui faudrait ensuite féliciter avec exagération, Madame de Cambremer eût préféré aller se promener ou rester dans ses merveilleux jardins de Féterne, au bas desquels le flot assoupi d'une petite baie vient mourir au milieu des fleurs. Mais elle savait que sa venue probable avait été annoncée par le maître de maison. Que ce fût un noble ou un franc bourgeois de Menneville la Teinturière ou de Chatoncourt l'Orgueilleux. Or, si Madame de Cambremer était sortie ce jour-là, sans faire acte de présence à la fête, tel ou tel des invités venus d'une des petites plages qui longent la mer avait pu entendre et voir la calèche de la marquise, ce qui eût ôté l'excuse de n'avoir pu quitter Féterne. D'autre part, ses maîtres de maison avaient beau avoir vu souvent Madame de Cambremer se rendre à des concerts, donnés chez des gens où il considérait que ce n'était pas sa place d'être, la petite diminution qui, à leurs yeux, était de ce fait infligée à la situation de la trop bonne marquise, disparaissait aussitôt que c'était eux qui recevaient. Et c'est avec fièvre qu'ils se demandaient s'ils l'auraient ou non à leur petit goûter. Quel soulagement à des inquiétudes ressenties depuis plusieurs jours si, après le premier morceau chanté par la fille des maîtres de la maison ou par quelque amateur en villégiature, un invité annonçait, signe infaillible que la marquise allait venir à la matinée, avoir vu les chevaux de la fameuse calèche arrêté devant l'horloger ou le droguiste. Alors, Madame de Cambremer, qui, en effet, n'allait pas tarder à entrer, suivie de sa belle-fille, des invités en ce moment à demeure chez elle, et qu'elle avait demandé la permission, accordée avec quelle joie, d'amener, reprenait tout son lustre aux yeux des maîtres de maison, pour lesquels la récompense de sa venue espérée avait peut-être été la cause déterminante et inavouée de la décision qu'ils avaient prise il y a un mois. S'infliger les tracas et faire les frais de donner une matinée. Voyant la marquise présente à leur goûter, ils se rappelaient non plus sa complaisance à se rendre à ceux de voisins peu qualifiés, mais l'ancienneté de sa famille, le luxe de son château, l'impolitesse de sa belle-fille née Legrandin, qui, par son arrogance, relevait la bonhomie un peu fade de la belle-mère. Déjà, il croyait lire, au courrier mondain du Gaulois, l'entrefilet qu'ils cuisineraient eux-mêmes en famille, toutes portes fermées à clé, sur le petit coin de Bretagne où l'on s'amuse ferme, la matinée ultra-sélecte, où l'on ne s'est séparé qu'après avoir fait promettre au maître de maison de bientôt recommencer. Chaque jour, ils attendaient le journal, anxieux de ne pas avoir encore vu leur matinée y figurer, et craignant de n'avoir eu Madame de Cambremer que pour leurs seuls invités et non pour la multitude des lecteurs. Enfin, le jour béni arrivait. La saison est exceptionnellement brillante cette année à Balbec. La mode est au petit concert d'après-midi, etc. Dieu merci, le nom de Madame de Cambremer avait été bien orthographié et cité au hasard, mais en tête. Il ne restait plus qu'à paraître ennuyé de cette indiscrétion des journaux qui pouvait amener des brouilles avec les personnes qu'on avait pu inviter, et à demander hypocritement, devant Madame de Cambremer, qui avait pu avoir la perfidie d'envoyer cet écho, dont la marquise bienveillante et grande dame disait « Je comprends que cela vous ennuie, mais pour moi, je n'ai été que très heureuse qu'on me sût chez vous. » Sur la carte qu'on me remit, Madame de Cambremer avait griffonné qu'elle donnait une matinée le surlendemain. Et certes, il y a seulement 2 jours, si fatiguée de vie mondaine que je fusse, c'eût été un vrai plaisir pour moi que de la goûter transplantée dans ses jardins où poussaient en pleine terre, grâce à l'exposition de Féterne, les figuiers, les palmiers, les plants de rosiers, jusque dans la mer, souvent d'un calme et d'un bleu méditerranéen, et sur laquelle le petit yacht des propriétaires allait, avant le commencement de la fête, chercher dans les plages de l'autre côté de la baie les invités les plus importants. Servait, avec ses vélums tendus contre le soleil, quand tout le monde était arrivé, de salle à manger pour goûter, et repartait le soir reconduire ce qu'il avait amené. Luxe charmant, mais si coûteux que c'était en partie afin de parer aux dépenses qu'il entraînait que Madame de Cambremer avait cherché à augmenter ses revenus de différentes façons, et notamment en louant, pour la première fois, une de ses propriétés, fort différente de Féterne, la Raspelière. Oui, il y a 2 jours, combien une telle matinée, peuplée de petits nobles inconnus dans un cadre nouveau, m'eût changé de la haute vie parisienne. Mais maintenant, les plaisirs n'avaient plus aucun sens pour moi. J'écrivis donc à Madame de Cambremer pour m'excuser, de même qu'une heure avant j'avais fait congédier Albertine. Le chagrin avait aboli en moi la possibilité du désir aussi complètement qu'une forte fièvre coupe l'appétit. Ma mère devait arriver le lendemain. Il me semblait que j'étais moins indigne de vivre auprès d'elle, que je la comprendrais mieux, maintenant que toute une vie étrangère et dégradante avait fait place à la remontée des souvenirs déchirants qui saignaient et ennoblissaient mon âme, comme la sienne, de leur couronne d'épines. Je le croyais. En réalité, il y a bien loin des chagrins véritables comme était celui de maman, qui vous ôte littéralement la vie pour bien longtemps, quelquefois pour toujours, dès qu'on a perdu l'être qu'on aime. À ces autres chagrins, passagers malgré tout, comme devait être le mien, qui s'en vont vite, comme ils sont venus tard, qu'on ne connaît que longtemps après l'événement, parce qu'on a eu besoin, pour les ressentir, de les comprendre. Chagrin comme tant de gens en éprouvent, et dont celui qui était actuellement ma torture ne se différenciait que par cette modalité du souvenir involontaire. Quant à un chagrin aussi profond que celui de ma mère, je devais le connaître un jour. On le verra dans la suite de ce récit. Mais ce n'était pas maintenant, ni ainsi que je le me figurais. Néanmoins, comme un récitant qui devrait connaître son rôle et être à sa place depuis bien longtemps, mais qui est arrivé seulement à la dernière seconde, et n'ayant lu qu'une fois ce qu'il a à dire, sait dissimuler assez habilement quand vient le moment où il doit donner la réplique pour que personne ne puisse s'apercevoir de son retard, mon chagrin tout nouveau me permit, quand ma mère arriva, de lui parler comme s'il n'avait toujours été le même. Elle crut seulement que la vue de ces lieux où j'avais été avec ma grand-mère, et ce n'était d'ailleurs pas cela, l'avait réveillée. Pour la première fois alors, et parce que j'avais une douleur qui n'était rien à côté de la sienne, mais qui m'ouvrait les yeux, je me rendis compte avec épouvante de ce qu'elle pouvait souffrir. Pour la première fois, je compris que ce regard fixe et sans pleurs, ce qui faisait que Françoise la plaignait peu, qu'elle avait depuis la mort de ma grand-mère, était arrêté sur cette incompréhensible contradiction du souvenir et du néant. D'ailleurs, quoique toujours dans ses voiles noires, plus habillée dans ce pays nouveau, j'étais plus frappée de la transformation qui s'était accomplie en elle. Ce n'est pas assez de dire qu'elle avait perdu toute gaieté. Fondue, figée en une sorte d'image implorante, elle semblait avoir peur d'offenser d'un mouvement trop brusque, d'un son de voix trop haut, la présence douloureuse qui ne la quittait pas. Mais surtout, dès que je la vis entrer dans son manteau de crêpe, je m'aperçus, ce qui m'avait échappé à Paris, que ce n'était plus ma mère que j'avais sous les yeux, mais ma grand-mère. Comme dans les familles royales et ducales, à la mort du chef, le fils prend son titre, et de duc d'Orléans, de prince de Tarente ou de prince des Laumes, devient roi de France, duc de la Trémoille, duc de Guermantes. Ainsi, souvent, par un avènement d'un autre ordre et de plus profonde origine, la mort saisit le vif qui devient son successeur ressemblant, le continuateur de sa vie interrompue. Peut-être le grand chagrin qui suit, chez une fille telle qu'était maman, la mort de sa mère ne fait-il que briser plutôt la chrysalide, hâter la métamorphose et l'apparition d'un être qu'on porte en soi, et qui, sans cette crise qui fait brûler les étapes et sauter d'un seul coup des périodes, ne fut survenue que plus lentement. Peut-être dans le regret de celle qui n'est plus, y a-t-il une espèce de suggestion qui finit par amener sur nos traits des similitudes que nous avions d'ailleurs en puissance, et y a-t-il surtout arrêt de notre activité plus particulièrement individuelle? Chez ma mère, de son bon sens, de la gaieté moqueuse qu'elle tenait de son père. Que nous ne craignions pas, tant que vivait l'être bien-aimé, d'exercer, fût-ce à ses dépens, et qui contrebalançait le caractère que nous tenions exclusivement de lui. Une fois qu'elle est morte, nous aurions scrupule à être autre. Nous n'admirons plus que ce qu'elle était, ce que nous étions déjà, mais mêlés à autre chose, et ce que nous allons être désormais uniquement. C'est dans ce sens-là, et non dans celui si vague, si faux, où on l'entend généralement, qu'on peut dire que la mort n'est pas inutile, que le mort continue à agir sur nous. Il agit même plus qu'un vivant, parce que la véritable réalité n'étant dégagée que par l'esprit, étant l'objet d'une opération spirituelle, nous ne connaissons vraiment que ce que nous sommes obligés de recréer par la pensée, ce que nous cache la vie de tous les jours. Enfin, dans ce culte du regret pour nos morts, Nous vouons une idolâtrie à ce qu'ils ont aimé. Non seulement ma mère ne pouvait se séparer du sac de ma grand-mère, devenu plus précieux que s'il eût été de saphirs et de diamants, de son manchon, de tous ses vêtements, qui accentuaient encore la ressemblance d'aspect entre elles deux, mais même des volumes de Madame de Sévigné que ma grand-mère avait toujours avec elle, exemplaires que ma mère n'eût pas changés contre le manuscrit même des lettres. Elle plaisantait autrefois ma grand-mère, qui ne lui écrivait jamais une fois sans citer une phrase de Madame de Sévigné ou de Madame de Beausergent. Dans chacune des trois lettres que je reçus de maman avant son arrivée à Balbec, elle me cita Madame de Sévigné, comme si ces trois lettres eussent été non pas adressées par elle à moi, mais par ma grand-mère, adressées à elle. Elle voulut descendre sur la digue, voir cette plage dont ma grand-mère lui parlait tous les jours en lui écrivant. Tenant à la main l'entouka de sa mère, je la vis de la fenêtre s'avancer toute noire, à pas timides, pieux, sur le sable que des pieds chéris avaient foulé avant elle. Et elle avait l'air d'aller à la recherche d'une morte que les flots devaient ramener. Pour ne pas la laisser dîner seule, je dus descendre avec elle. Le premier président et la veuve du bâtonnier se firent présenter à elle. Et tout ce qui avait rapport à ma grand-mère lui était si sensible qu'elle fut touchée infiniment, garda toujours le souvenir et la reconnaissance de ce que lui dit le premier président, comme elle souffrit avec indignation de ce qu'au contraire la femme du bâtonnier n'eut pas une parole de souvenir pour la morte. En réalité, le premier président ne se souciait pas plus d'elle que la femme du bâtonnier. Les paroles émues de l'un et le silence de l'autre, bien que ma mère mît entre eux une telle différence, n'étaient qu'une façon diverse d'exprimer cette indifférence que nous inspirent les morts. Mais je crois que ma mère trouva surtout de la douceur dans les paroles où, malgré moi, je laissais passer un peu de ma souffrance. Elle ne pouvait que rendre maman heureuse, malgré toute la tendresse qu'elle avait pour moi, comme tout ce qui assurait à ma grand-mère une survivance dans les cœurs. Tous les jours suivants, ma mère descendit s'asseoir sur la plage, pour faire exactement ce que sa mère avait fait. Et elle lisait ses deux livres préférés, les mémoires de Madame de Beausergent et les lettres de Madame de Sévigné. Elle, et aucun de nous, n'avait pu supporter qu'on appelât cette dernière la spirituelle marquise, pas plus que La Fontaine le bonhomme. Mais quand elle lisait dans les lettres ces mots « ma fille », elle croyait entendre sa mère lui parler. Elle eut la mauvaise chance, dans un de ces pèlerinages où elle ne voulait pas être troublée, de rencontrer sur la plage une dame de Combray, suivie de ses filles. Je crois que son nom était Madame Poussin. Mais nous ne l'appelions jamais entre nous que « tu m'en diras des nouvelles ». Car c'est par cette phrase perpétuellement répétée qu'elle avertissait ses filles des maux qu'elle se préparait, par exemple en disant à l'une qui se frottait les yeux « quand tu auras une bonne ophtalmie, tu m'en diras des nouvelles ». Elle adressa de loin à maman de longs saluts éplorés, non en signe de condoléance, mais par genre d'éducation. Elle eût fait de même si nous n'eussions pas perdu ma grand-mère et n'eussions eu que des raisons d'être heureux. Vivant assez retirée à Combray, dans un immense jardin, elle ne trouvait jamais rien assez doux et faisait subir des adoucissements aux mots et aux noms même de la langue française. Elle trouvait trop dur d'appeler « cuillère » la pièce d'argenterie qui versait ses sirops, et disait en conséquence « cueillère ». Elle eut eu peur de brusquer le doux chantre de Télémaque en l'appelant rudement « fénelon », comme je faisais moi-même en connaissance de cause, ayant pour ami le plus cher, l'être le plus intelligent, bon et brave, inoubliable à tous ceux qui l'ont connu, Bertrand de Fénelon. Et elle ne disait jamais que « fénélon », trouvant que l'accent aigu ajoutait quelques mollesses. Le gendre, moins doux, de cette Madame Poussin, et duquel j'ai oublié le nom, étant notaire à Combray, emporta la caisse et fit perdre à mon oncle, notamment, une assez forte somme. Mais la plupart des gens de Combray étaient si bien avec les autres membres de la famille qu'il n'en résulta aucun froid et qu'on se contenta de plaindre Madame Poussin. Elle ne recevait pas, mais chaque fois qu'on passait devant sa grille, on s'arrêtait à admirer ses admirables ombrages, sans pouvoir distinguer autre chose. Elle ne nous gêna guère à Balbec, où je ne la rencontrai qu'une fois, à un moment où elle disait à sa fille en train de se ronger les ongles « Quand tu auras un bon panari, tu m'en diras des nouvelles. » Pendant que maman lisait sur la plage, je restais seule dans ma chambre. Je me rappelais les derniers temps de la vie de ma grand-mère et tout ce qui se rapportait à eux. La porte de l'escalier, qui était maintenue ouverte quand nous étions sortis pour sa dernière promenade. En contraste avec tout cela, le reste du monde semblait à peine réel, et ma souffrance l'empoisonnait tout entier. Enfin, ma mère exigea que je sortisse. Mais, à chaque pas, quelque aspect oublié du casino, de la rue où, en l'attendant le premier soir, j'étais allé jusqu'au monument de Duguay-Trouin, m'empêchait, comme un vent contre lequel on ne peut lutter, d'aller plus avant. Je baissais les yeux pour ne pas voir. Et après avoir repris quelques forces, je revenais vers l'hôtel où je savais qu'il était désormais impossible que, si longtemps dussé-je attendre, je retrouvasse ma grand-mère, que j'avais retrouvée autrefois, le premier soir d'arrivée. Comme c'était la première fois que je sortais, beaucoup de domestiques, que je n'avais pas encore vus, me regardèrent curieusement. Sur le seuil même de l'hôtel, un jeune chasseur ôta sa casquette pour me saluer et la remit prestement. Je crus qu'Aimé lui avait, selon son expression, passé la consigne d'avoir des égards pour moi. Mais je vis au même moment que, pour une autre personne qui rentrait, il l'enleva de nouveau. La vérité était que, dans la vie, ce jeune homme ne savait qu'ôter et remettre sa casquette, et le faisait parfaitement bien. Ayant compris qu'il était incapable d'autre chose, et qu'il excellait dans celle-là, il l'accomplissait le plus grand nombre de fois qu'il pouvait par jour, ce qui lui valait de la part des clients une sympathie discrète mais générale. Une grande sympathie aussi de la part du concierge, à qui revenait la tâche d'engager les chasseurs et qui, jusqu'à cet oiseau rare, n'avait pas pu en trouver un qui ne se fît renvoyer en moins de 8 jours. Au grand étonnement d'Aimé qui disait « Pourtant, dans ce métier-là, on ne leur demande guère que d'être poli. Ça ne devrait pas être si difficile. » Le directeur tenait aussi à ce qu'ils eussent ce qu'il appelait une belle présence, voulant dire qu'ils restassent là, ou plutôt ayant mal retenu le mot « prestance ». L'aspect de la pelouse qui s'étendait derrière l'hôtel avait été modifié par la création de quelques plates-bandes fleuries et l'enlèvement non seulement d'un arbuste exotique, mais du chasseur qui, la première année, décorait extérieurement l'entrée par la tige souple de sa taille et la coloration curieuse de sa chevelure. Il avait suivi une comtesse polonaise qu'il avait pris comme secrétaire, imitant en cela ses deux aînés et sa sœur dactylographe, arrachés à l'hôtel par des personnalités de pays et de sexes divers qui s'étaient éprises de leur charme. Seul demeurait leur cadet, dont personne ne voulait parce qu'il louchait. Il était fort heureux quand la comtesse polonaise et les protecteurs des deux autres venaient passer quelque temps à l'hôtel de Balbec, car, malgré qu'il enviât ses frères, il les aimait, et pouvait ainsi, pendant quelques semaines, cultiver des sentiments de famille. L'abbesse de Fontevraud n'avait-elle pas l'habitude, quittant pour cela ses moinesses, de venir partager l'hospitalité qu'offrait Louis XIV à cette autre Mortemar, sa maîtresse, Madame de Montespan. Pour lui, c'était la première année qu'il était à Balbec. Il ne me connaissait pas encore, mais, ayant entendu ses camarades plus anciens faire suivre, quand il me parlait, le mot de « monsieur » de mon nom, il les imita dès la première fois, avec l'air de satisfaction, soit de manifester son instruction relativement à une personnalité qu'il jugeait connue, soit de se conformer à un usage qu'il ignorait il y a 5 minutes, mais auquel il lui semblait qu'il était indispensable de ne pas manquer. Je comprenais très bien le charme que ce grand palace pouvait offrir à certaines personnes. Il était dressé comme un théâtre, et une nombreuse figuration l'animait, jusque dans les plaintes. Bien que le client ne fût qu'une sorte de spectateur, il était mêlé perpétuellement au spectacle, non même comme dans ces théâtres où les acteurs jouent une scène dans la salle, mais comme si la vie du spectateur se déroulait au milieu des somptuosités de la scène. Le joueur de tennis pouvait rentrer en veston de flanelle blanche, le concierge s'était mis en habit bleu, galonné d'argent, pour lui donner ses lettres. Si ce joueur de tennis ne voulait pas monter à pied, il n'était pas moins mêlé aux acteurs en ayant à côté de lui, pour faire monter l'ascenseur, le lift aussi richement costumé. Les couloirs des étages dérobaient une fuite de caméristes et de couturières. Belles sur la mer et jusqu'aux petites chambres desquelles les amateurs de la beauté féminine en civière arrivaient par de savants détours. En bas, c'était l'élément masculin qui dominait et faisait de cet hôtel, à cause de l'extrême et oisive jeunesse des serviteurs, comme une sorte de tragédie judéo-chrétienne ayant pris corps et perpétuellement représentée. Aussi, ne pouvais-je m'empêcher de me dire à moi-même, en les voyant, non certes les vers de Racine qui m'étaient venus à l'esprit chez la princesse de Guermantes, tandis que M. de Vaucoubert regardait de jeunes secrétaires d'ambassade saluant M. de Charlus, mais d'autres vers de Racine, cette fois-ci non plus d'Esther, mais d'Athalie. Car dès le hall, ce qu'au XVIIe siècle on appelait les portiques, un peuple florissant de jeunes chasseurs se tenait, surtout à l'heure du goûter, comme les jeunes Israélites des chœurs de Racine. Mais je ne crois pas qu'un seul eût pu fournir même la vague réponse que Joas trouve pour Athalie quand celle-ci demande au prince-enfant « Quel est donc votre emploi ?» Car il n'en avait aucun. Tout au plus, si l'on avait demandé à n'importe lequel d'entre eux, comme la nouvelle reine, « Mais tout ce peuple enfermé dans ce lieu, à quoi s'occupe-t-il » aurait-il pu dire « Je vois l'ordre pompeux de ces cérémonies et j'y contribue. » Parfois, un des jeunes figurants allait vers quelque personnage plus important. Puis cette jeune beauté rentrait dans le chœur et, à moins que ce ne fût l'instant d'une détente contemplative, tous entrelaçaient leurs évolutions inutiles, respectueuses, décoratives et quotidiennes. Car, sauf leur jour de sortie, loin du monde élevé et ne franchissant pas le parvis, ils menaient la même existence ecclésiastique que les Lévites dans Athalie. Et devant cette troupe jeune et fidèle, jouant au pied des degrés couverts de tapis magnifiques, je pouvais me demander si je pénétrais dans le grand hôtel de Balbec ou dans le temple de Salomon. Je remontais directement à ma chambre. Mes pensées étaient habituellement attachées aux derniers jours de la maladie de ma grand-mère, à ces souffrances que je revivais, en les accroissant de cet élément, plus difficile encore à supporter que la souffrance même, des autres et auxquels il est ajouté par notre cruelle pitié. Quand nous croyons seulement recréer les douleurs d'un être cher, notre pitié les exagère. Mais peut-être est-ce elle qui est dans le vrai, plus que la conscience qu'ont de ces douleurs ceux qui les souffrent, et auxquels est cachée cette tristesse de leur vie, que la pitié, elle, voit, dont elle se désespère. Toutefois, ma pitié eut, dans un élan nouveau, dépassé les souffrances de ma grand-mère. Si j'avais su alors, ce que j'ignorais longtemps, que ma grand-mère, la veille de sa mort, dans un moment de conscience et s'assurant que je n'étais pas là, avait pris la main de maman et, après y avoir collé ses lèvres fiévreuses, lui avait dit « Adieu, ma fille, adieu pour toujours. » Et c'est peut-être aussi ce souvenir-là que ma mère n'a plus jamais cessé de regarder si fixement. Puis les doux souvenirs me revenaient. Elle était ma grand-mère et j'étais son petit-fils. Les expressions de son visage semblaient écrites dans une langue qui n'était que pour moi. Elle était tout dans ma vie. Les autres n'existaient que relativement à elle, au jugement qu'elle me donnerait sur eux. Mais non, nos rapports ont été trop fugitifs pour n'avoir pas été accidentels. Elle ne me connaît plus, je ne la reverrai jamais. Nous n'avions pas été créés uniquement l'un pour l'autre. C'était une étrangère. Cette étrangère, j'étais en train d'en regarder la photographie par Saint-Loup. Maman, qui avait rencontré Albertine, avait insisté pour que je la visse, à cause des choses gentilles qu'elle lui avait dites sur grand-mère et sur moi. Je lui avais donc donné rendez-vous. Je prévins le directeur pour qu'il la fît attendre au salon. Il me dit qu'il la connaissait depuis bien longtemps, elle et ses amis, bien avant qu'elles eussent atteint l'âge de la pureté, mais qu'il leur en voulait de choses qu'elles avaient dites de l'hôtel. Il faut qu'elles ne soient pas bien illustrées pour causer ainsi, à moins qu'on ne les ait calomniées. Je compris aisément que pureté était dit pour puberté. En attendant l'heure d'aller retrouver Albertine, je tenais mes yeux fixés, comme sur un dessin qu'on finit par ne plus voir à force de l'avoir regardé, sur la photographie que Saint-Loup avait faite, quand tout à coup, je pensais de nouveau. C'est ma grand-mère, je suis son petit-fils. Comme un amnésique retrouve son nom, comme un malade change de personnalité. Françoise entra me dire qu'Albertine était là, et voyant la photographie, « Pauvre madame, c'est bien elle, jusqu'à son bouton de beauté sur la joue. Ce jour que le marquis l'a photographiée, elle avait été bien malade. Elle s'était deux fois trouvée mal. Surtout, Françoise, qu'elle m'avait dit, il ne faut pas que mon petit-fils le sache. Et elle le cachait bien. Elle était toujours gaie en société. Seule, par exemple, je trouvais qu'elle avait l'air par moments d'avoir l'esprit un peu monotone. Mais ça passait vite. Et puis, elle me dit comme ça, « Si jamais il m'arrivait quelque chose, il faudrait qu'il ait un portrait de moi. Je n'en ai jamais fait faire un seul. » Alors elle m'envoya dire à monsieur le marquis, en lui recommandant de ne pas raconter à monsieur que c'était elle qui l'avait demandé, s'il ne pourrait pas lui tirer sa photographie. Mais quand je suis revenue lui dire que oui, elle ne voulait plus, parce qu'elle se trouvait trop mauvaise figure. « C'est pire encore, qu'elle me dit, que pas de photographie du tout. » Mais comme elle n'était pas bête, elle finit par s'arranger si bien en mettant un grand chapeau rabattu qu'il n'y paraissait plus quand elle n'était pas au grand jour. Elle en était bien contente de sa photographie, parce qu'en ce moment-là, elle ne croyait pas qu'elle reviendrait de Balbec. J'avais beau lui dire « Madame, il ne faut pas causer comme ça. J'aime pas entendre madame causer comme ça. » C'était dans son idée. Et dame, il y avait plusieurs jours qu'elle ne pouvait pas manger. C'est pour cela qu'elle poussait monsieur à aller dîner très loin avec monsieur le marquis. Alors, au lieu d'aller à table, elle faisait semblant de lire, et dès que la voiture du marquis était partie, elle montait se coucher. Des jours, elle voulait prévenir madame d'arriver pour la voir encore. Et puis, elle avait peur de la surprendre, comme elle ne lui avait rien dit. Il vaut mieux qu'elle reste avec son mari, voyez-vous, Françoise. Françoise, me regardant, me demanda tout à coup si je me sentais indisposée. Je lui dis que non, et elle, Et puis, vous me ficelez là à causer avec vous. Votre visite est peut-être déjà arrivée. Il faut que je descende. Ce n'est pas une personne pour ici. Et avec une allant vite comme elle, elle pourrait être repartie. Elle n'aime pas attendre. Ah, maintenant, mademoiselle Albertine, c'est quelqu'un.
Vous vous trompez, Françoise. Elle est assez bien, trop bien pour ici. Mais allez la prévenir que je ne pourrai pas la voir aujourd'hui.
Quelles déclarations apitoyées j'aurais éveillées en Françoise si elle m'avait vue pleurer. Soigneusement, je me cachais. Sans cela, j'aurais eu sa sympathie. Mais je lui donnais la mienne. Nous ne nous mettons pas assez dans le cœur de ces pauvres femmes de chambre qui ne peuvent pas nous voir pleurer, comme si pleurer nous faisait mal. Ou peut-être leur faisait mal. Françoise m'ayant dit quand j'étais petit, « Ne pleurez pas comme cela, je n'aime pas vous voir pleurer comme cela. »
Nous n'aimons pas les grandes phrases, les attestations. Nous avons tort. Nous fermons ainsi notre cœur aux pathétiques des campagnes, à la légende que la pauvre servante, renvoyée, peut-être injustement, pour vol, toute pâle, devenue subitement plus humble, comme si c'était un crime d'être accusée, déroule en invoquant l'honnêteté de son père, les principes de sa mère, les conseils de l'aïeul. Certes, ces mêmes domestiques qui ne peuvent supporter nos larmes nous feront prendre sans scrupule une fluxion de poitrine parce que la femme de chambre d'au-dessous aime les courants d'air et que ce ne serait pas poli de les supprimer. Car il faut que ceux-là même qui ont raison, comme Françoise, aient tort aussi pour faire de la justice une chose impossible. Même les humbles plaisirs des servantes provoquent ou le refus ou la raillerie de leur maître. Car c'est toujours un rien, mais niaisement sentimental, anti-hygiénique. Aussi peuvent-elles dire « Comment, moi qui ne demande que cela dans l'année, on ne me l'accorde pas ?» Et pourtant, les maîtres accorderont beaucoup plus, qui ne fut pas stupide et dangereux pour elles, ou pour eux. Certes, à l'humilité de la pauvre femme de chambre, tremblante, prête à avouer ce qu'elle n'a pas commis, disant « Je partirai ce soir s'il le faut. » On ne peut pas résister. Mais il faut savoir aussi ne pas rester insensible, malgré la banalité solennelle et menaçante des choses qu'elle dit, son héritage maternel et la dignité du clos, devant une vieille cuisinière drapée dans une vie et une ascendance d'honneur, tenant le balai comme un sceptre, poussant son rôle au tragique, l'entrecoupant de pleurs, se redressant avec majesté. Ce jour-là, je me rappelais, ou j'imaginais de telles scènes. Je les rapportais à notre vieille servante, et, depuis lors, malgré tout le mal qu'elle put faire à Albertine, j'aimais Françoise, d'une affection intermittente, il est vrai, mais du genre le plus fort, celui qui a pour base la pitié. Certes, je souffris toute la journée en restant devant la photographie de ma grand-mère. Elle me torturait. Moins pourtant que ne le fit le soir la visite du directeur. Comme je lui parlais de ma grand-mère et qu'il me renouvelait ses condoléances, je l'entendis me dire, car il aimait employer les mots qu'il prononçait mal. C'est comme le jour où madame votre grand-mère avait eu cette cimecope. Je voulais vous en avertir, parce qu'à cause de la clientèle, n'est-ce pas, cela aurait pu faire du tort à la maison. Il aurait mieux valu qu'elle parte le soir même. Mais elle supplia de ne rien dire et me promit qu'elle n'aurait plus de cimecope, ou qu'à la première elle partirait. Le chef de l'étage m'a pourtant rendu compte qu'elle en a eu une autre. Mais, dame, vous étiez de vieux clients qu'on cherchait à contenter, et du moment que personne ne s'est plaint. Ainsi, ma grand-mère avait des syncopes et me les avait cachées. Peut-être au moment où j'étais le moins gentil pour elle, où elle était obligée, tout en souffrant, de faire attention à être de bonne humeur pour ne pas m'irriter, et à paraître bien portante pour ne pas être mise à la porte de l'hôtel. Cimecope C'est un mot que, prononcé ainsi, je n'aurais jamais imaginé, qui m'aurait peut-être, s'appliquant à d'autres, paru ridicule, mais qui, dans son étrange nouveauté sonore, pareille à celle d'une dissonance originale, resta longtemps ce qui était capable d'éveiller en moi les sensations les plus douloureuses. Le lendemain, j'allais, à la demande de maman, m'étendre un peu sur le sable, ou plutôt dans les dunes, là où on est caché par leurs replis, et où je savais qu'Albertine et ses amis ne pourraient pas me trouver. Mes paupières abaissées ne laissaient passer qu'une seule lumière, toute rose, celle des parois intérieures des yeux. Puis elles se fermèrent tout à fait. Alors ma grand-mère m'apparut, assise dans un fauteuil. Si faible, elle avait l'air de vivre moins qu'une autre personne. Pourtant, je l'entendais respirer. Parfois, un signe montrait qu'elle avait compris ce que nous disions, mon père et moi. Mais j'avais beau l'embrasser, je ne pouvais pas arriver à éveiller un regard d'affection dans ses yeux, un peu de couleur sur ses joues. Absente elle-même, elle avait l'air de ne pas m'aimer, de ne pas me connaître, peut-être de ne pas me voir. Je ne pouvais deviner le secret de son indifférence, de son abattement, de son mécontentement silencieux. J'entraînai mon père à l'écart. « Tu vois tout de même, lui dis-je, il n'y a pas à dire, elle a saisi exactement chaque chose. C'est l'illusion complète de la vie. Si on pouvait faire venir ton cousin, qui prétend que les morts ne vivent pas. Voilà plus d'un an qu'elle est morte, et, en somme, elle vit toujours. Mais pourquoi ne veut-elle pas m'embrasser ? Regarde, sa pauvre tête retombe. Mais elle voudrait aller aux Champs-Élysées tantôt.
C'est de la folie.
Vraiment, tu crois que cela pourrait lui faire mal ? Qu'elle pourrait mourir davantage ? Il n'est pas possible qu'elle ne m'aime plus. J'aurai beau l'embrasser, est-ce qu'elle ne me sourira plus jamais ?
Que veux-tu ? Les morts sont les morts.
Quelques jours plus tard, la photographie qu'avait faite Saint-Loup m'était douce à regarder. Elle ne réveillait pas le souvenir de ce que m'avait dit Françoise, parce qu'il ne m'avait plus quittée et je m'habituais à lui. Mais, en regard de l'idée que je me faisais de son état si grave, si douloureux ce jour-là, la photographie, profitant encore des ruses qu'avait eues ma grand-mère, et qui réussissait à me tromper même depuis qu'elle m'avait été dévoilée, me la montrait si élégante, si insouciante, sous le chapeau qui cachait un peu son visage, que je la voyais moins malheureuse et mieux portante que je ne l'avais imaginée. Et pourtant ses joues, ayant à son insu une expression à elle, quelque chose de plombé, de hagard, comme le regard d'une bête qui se sentirait déjà choisie et désignée. Ma grand-mère avait un air de condamnée à mort, un air involontairement sombre, inconsciemment tragique, qui m'échappait, mais qui empêchait maman de regarder jamais cette photographie, cette photographie qui lui paraissait moins une photographie de sa mère que de la maladie de celle-ci, d'une insulte que cette maladie faisait au visage brutalement souffleté de grand-mère. Puis un jour, je me décidai à faire dire à Albertine que je la recevrais prochainement. C'est qu'un matin de grande chaleur prématurée, les mille cris des enfants qui jouaient, des baigneurs plaisantants, des marchands de journaux, m'avaient décrit, en traits de feu, en flamèches entrelacées, la plage ardente que les petites vagues venaient une à une arroser de leur fraîcheur. Alors avait commencé le concert symphonique mêlé au clapotement de l'eau, dans lequel les violons vibraient comme un essaim d'abeilles égaré sur la mer. Aussitôt, j'avais désiré de réentendre le rire d'Albertine, de revoir ses amis, ses jeunes filles se détachant sur les flots, et rester dans mon souvenir le charme inséparable, la flore caractéristique de Balbec. Et j'avais résolu d'envoyer par Françoise un mot à Albertine pour la semaine prochaine, tandis que, montant doucement, la mer, à chaque déferlement de l'âme, recouvrait complètement de coulées de cristal la mélodie dont les phrases apparaissaient séparées les unes des autres, comme ces anges luthiers qui, au fête de la cathédrale italienne, s'élèvent entre les crêtes de porphyre bleu et de jaspe écumant. Mais le jour où Albertine vint, le temps s'était de nouveau gâté et rafraîchi, et d'ailleurs je n'eus pas l'occasion d'entendre son rire. Elle était de fort mauvaise humeur. « Balbec est assommant cette année, me dit-elle. Je tâcherai de ne pas rester longtemps. Vous savez que je suis ici depuis Pâques, cela fait plus d'un mois. Il n'y a personne, si vous croyez que c'est folichon. » Malgré la pluie récente et le ciel changeant à toute minute, après avoir accompagné Albertine jusqu'à Aigreville, car Albertine faisait, selon son expression, la navette entre cette petite plage où était la villa de Madame Bontemps et Incarville où elle avait été prise en pension par les parents de Rosemonde, je partis me promener seule vers cette grande route que prenait la voiture de Madame de Villeparisis quand nous allions nous promener avec ma grand-mère. Des flaques d'eau que le soleil qui brillait n'avait pas séchées faisaient du sol un vrai marécage, et je pensais à ma grand-mère, qui jadis ne pouvait marcher deux pas sans se crotter. Mais dès que je fus arrivée à la route, ce fut un éblouissement. Là où je n'avais vu, avec ma grand-mère, au mois d'août, que les feuilles et comme l'emplacement des pommiers, à perte de vue, ils étaient en pleine floraison, d'un luxe inouï. Les pieds dans la boue et en toilette de bal, ne prenant pas de précautions pour ne pas gâter le plus merveilleux satin rose qu'on eût jamais vu et que faisait briller le soleil. L'horizon lointain de la mer fournissait aux pommiers comme un arrière-plan d'estampes japonaises. Si je levais la tête pour regarder le ciel entre les fleurs, qui faisait paraître son bleu rasséréné, presque violent, elle semblait s'écarter pour montrer la profondeur de ce paradis. Sous cet azur, une brise légère mais froide faisait trembler légèrement les bouquets rougissants. Des mésanges bleus venaient se poser sur les branches et sautaient entre les fleurs, indulgentes, comme si c'eût été un amateur d'exotisme et de couleurs qui avait artificiellement créé cette beauté vivante. Mais elle touchait jusqu'aux larmes, parce que, si loin qu'on allât dans ses effets d'art raffinés, on sentait qu'elle était naturelle, que ces pommiers étaient là en pleine campagne, comme des paysans, sur une grande route de France. Puis, aux rayons du soleil, succédèrent subitement ceux de la pluie. Ils zébrèrent tout l'horizon, enserrèrent la file des pommiers dans leur réseau gris. Mais ceux-ci continuaient à dresser leur beauté, fleurie et rose, dans le vent devenu glacial sous l'averse qui tombait. C'était une journée de printemps.